Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes partis pour une demi-heure de direct avec vous, toutes vos questions et notre invité du jour que vous avez découvert à la télévision dans la peau d'un personnage tantôt maladroit, tantôt grossier, qui laissait volontiers apparaître la naissance de son sillon interfécié lorsqu'il faisait le ménage. Souvenez-vous, c'était dans Mon incroyable fiancé en 2004, mais ça, cette époque-là est déjà bien lointaine. Désormais, c'est l'une des grandes stars dans l'une des séries les plus populaires en France. Il brille de tout son talent dans cette fiction française et s'il vient nous voir ce matin sur ce plateau, c'est parce que vous pouvez aller le voir en chair et en os dans une pièce où vous allez muscler à coup sûr vos zygomatiques. Bonjour Laurent Hournac.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Alors, espèce menacée, hein, je le rappelle, c'est le titre de la pièce que vous proposez actuellement au Théâtre de la Renaissance. C'est un vrai vaudeville hein, dans lequel vous donnez notamment la réplique à Arnaud Gidoin et à Thierry Eckendorn. Déjà, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'espèce menacée, c'est une sorte de plaidoyer écolo façon Europe Écologie Les Verts ou ça n'a absolument rien à voir?
Non,
on s'est posé la question, nous, avec Sarah Lecoeur,
oui,
quand on allait vous voir.
Le titre peut prêter un peu à confusion. Non, là, le mot espèce ramène plutôt à l'argent et à la monnaie sonnante et trébuchante, puisque c'est l'histoire de Yvon, le personnage que j'interprète, qui est un petit comptable dans une société, qui rentre chez lui en RER à Saint-Maur et il échange sa serviette, son cartable dans le RER par mégarde et il se retrouve avec un cartable rempli d'argent. Il y a 7 millions d'euros à l'intérieur. Et voilà, et la vie d'Yvon va basculer le temps d'une soirée. C'est le soir de son anniversaire. Des avis devaient venir partager un petit gigot d'agneau préparé par sa femme. Puis lui se voit partir au bout du monde à Buenos Aires sous le soleil avec cet argent. Sauf qu'évidemment, trouver 7 millions d'euros dans le RER, ça sent la magouille. Et évidemment, les problèmes vont arriver autour de ça, la police, un tueur. Bref, tout ça après part dans une joyeuse comédie très rythmée et voilà, espèce menacée. L'argent d'Yvon est menacé. Va-t-il réussir à le garder ou pas? Ça sera la grande question qu'on va poser.
Mais ça, c'est le fantasme absolu, ça, de se retrouver avec 7 millions d'euros comme ça, en prenant la mallette de quelqu'un. Vous, demain, vous prenez la mallette d'une personne malencontreusement, si j'ose dire. Est-ce que vous gardez l'argent ou vous le rendez?
Je vais vous le dire très sérieusement, les yeux dans les yeux. Je suis quelqu'un de très honnête, mais je pars avec l'argent.
Non, mais
en même temps, c'est risqué hein, de partir. Alors, je pense que beaucoup d'entre nous, on se dirait, allez, on y va. Mais en même temps, c'est sûr, trouver 7 millions d'euros, ça manque à quelqu'un hein, de l'autre côté. Donc, selon la nature de l'argent, ça peut être quand même assez vite problématique. Mais j'ai vu que quelqu'un avait trouvé, je crois, 85 000 euros dans un sac en liquide il y a quelques jours dans une rue, peut-être pas à Paris, peut-être en province.
C'est pas moi. Hein, vous
avez trouvé un sac avec 85 000 euros. Bah, c'est sûr que la question se pose, quoi.
Ça fait rêver. Effectivement, je pense qu'il y a peut-être quelques minutes d'hésitation.
Hein, ouais, je pense.
Je rappelle que nous sommes en direct sur Figaro Live, sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Laurent Hournac. Est-ce que vous avez bien l'intention de fêter votre retour à la vie normale en allant voir sa pièce de théâtre au Théâtre de la Renaissance? Est-ce que vous êtes de grands fans de Camping Paradis? Est-ce que vous aimeriez le voir dans d'autres rôles? N'hésitez pas, toutes vos questions. On y revient juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Salut Sarah.
Salut Damien. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Allez Sarah, c'est parti avec les audiences. Quelle chaîne est arrivée en tête hier soir?
Hier soir, il n'y a pas vraiment de grands gagnants.
Ah bon?
Tout le monde est dans un mouchoir de poche. Alors ça commence avec France 2 qui proposait la fiction Examen de conscience avec Cécile Bois. 2 900 000 téléspectateurs et 14,3% de part d'audience. C'est suivi par France 3 et Le Village préféré des Français, le magazine de Stéphane Bern évidemment. 2 600 000 personnes et 14,1% de part d'audience. Et sur la troisième marche du podium, c'est TF1 avec la série Quiz, vous savez, qui raconte les coulisses de qui veut gagner des millions, la triche dans le jeu. 2 800 000 téléspectateurs et 13,3% de part d'audience. Et puis, c'est un flop pour M6 qui proposait la soirée extraordinaire. C'est le premier divertissement de Marie Portolano sur la chaîne. Seulement 1 400 000 téléspectateurs et 7,4% de part de marché.
Sur TF1, là aussi, il était question de triche, un petit peu de vol d'argent. Vous connaissez sans doute cette histoire hein, de ce candidat qui a répondu à toutes les les questions pour atteindre le million de livres sterling à l'époque avec ses complices qui étaient dans le public et qui toussaient. Vous avez déjà été tenté de faire quelques larcins dans le passé. Est-ce que vous êtes un bad boy? Allez, on va dire un petit voleur.
Non, j'ai été bad boy quand j'étais ado. Je me rappelle, je volais avec mon meilleur copain à l'époque. On avait trouvé que ça à faire. On avait trouvé une faille dans le système.
Ouais.
Pour voler des stylos plumes dans un grand magasin parisien.
Il y a prescription.
Oui, il y a prescription, surtout qu'on s'est fait gauler. Ça a marché deux fois, et puis on dit jamais 203. Ça a marché les deux premières fois, on va y retourner samedi, ça sera bon. Puis voilà, il y a un monsieur qui nous a stoppé à la sortie du magasin, il me dit, vous deux, vous venez avec moi. On a pleuré toutes les larmes de notre corps.
Mais quelle idée de voler des stylos plumes? Vous étiez le premier élève de la classe? Vous étiez,
même pas, en plus. Je crois que le premier, je l'avais offert à la fille dont je devais être secrètement amoureux à l'époque. Lui, pareil, et puis je crois un pour moi, enfin vraiment le truc nul.
J'espère qu'on vous a donné d'autres conseils que d'offrir des stylos plumes à votre amoureuse Laurent Ronac quand même.
À l'époque, ça n'avait pas
beaucoup
marché. Voilà. Non, mais sinon, ça a été mes rares expériences de bad boy.
Bon, effectivement, bon, on ne va pas parler de bad boy alors dans ce cas. Allez, on poursuit ces infos médias avec un sondage exclusif que nous vous révélons ce matin, le talk show préféré des Français. Alors, quel est le verdict?
Alors effectivement, Opinionway a interrogé un panel représentatif de la population et la réponse est sans appel avec 27% des voix. C'est dans l'air, présenté par Caroline Roux, qui rafle la mise. L'émission de France 5 est juste devant Quotidien de Yann Barthès, plébiscité à 23% des suffrages. Le journaliste est talonné par C'est à vous à 22%. Et enfin, Touche pas à mon poste, un peu plus loin derrière, à 13%. Il faut rappeler que le talk show de Cyril Hanouna est au coude à coude avec On est en direct, la nouvelle émission de Laurent Ruquier, le samedi soir sur France 2. Et puis, il faut aussi noter, en hausse d'audience depuis plusieurs mois, eh bien, c'est CNews qui voit deux de ses journalistes monter en haut du classement, avec Pascal Praud d'un côté et Christine Kelly à la 6e et la 9e place.
Alors, c'est dans l'air, Quotidien, C'est à vous, Touche pas à mon poste. Est-ce qu'il y a des talk shows que vous regardez, vous, Laurent Ronac, à la télévision?
Non, mais c'est marrant, je me disais que ce n'est pas ceux dont on parle le plus qui sont finalement le plus publicités par le public.
Ouais.
On sait assez,
en effet, Touche pas à mon poste, hein, qui fait régulièrement les gros titres.
Ah oui, on en parle beaucoup. Et puis c'est vrai qu'il y a Cyril Hanouna et l'animateur star, producteur star de ce programme. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on le voit beaucoup. Mais je suis surpris justement des résultats, parce que j'aurais répondu, touche pas à mon poste en position,
bien sûr,
position 1. Après, voilà, je ne suis pas très public, moi, des talk shows. Bon, j'en connais aussi un peu la mécanique. Donc,
puis vous y êtes invité de temps en temps aussi.
Et puis, j'y suis, c'est d'y avoir été invité qui fait qu'on connaît un peu la mécanique. Donc, j'en suis pas forcément un spectateur assidu, mais il y a des belles émissions là-dedans qui ressortent Quotidien, C'est dans l'air, C'est à vous.
Vous regardez quoi, la télévision, vous l'en rendez?
Très honnêtement, je regarde un peu les fictions, mais je regarde très peu la télévision. J'ai pas beaucoup de temps à la maison, et souvent quand je suis à la maison, c'est des moments que j'essaye de garder en famille. Donc c'est pas moi qui fais le programme, c'est souvent les enfants qui font le programme.
C'est souvent
le programme télé. Voilà, ma petite a 9 ans en ce moment, c'est Fort Boyard, donc en ce moment c'est très Fort Boyard.
Vous avez participé à Fort Boyard cette saison?
Non, cette saison j'y suis pas allé parce que le planning marchait pas. Voilà, j'y suis allé deux fois, et puis c'est la première fois qu'on a tous la même réaction, on se dit, mais quand même, si on a tous rêvé, on a tous regardé Fort Boyard enfant, du coup, il y a un truc très rêve d'enfant qui se réalise. La deuxième fois, on se rend compte que c'est difficile.
et généralement, on se blesse aussi. C'est ce que nous disent les personnalités qui défilent sur ce plateau. Allez, on termine ces infos, Sarah, avec le Mercato Télé qui bat son plein. Deux nouvelles recrues arrivent sur BFM TV.
Oui, Closer et Pure Média l'ont révélé hier. Yves Calvi, dont l'émission L'Info du Vrai sur Canal+, n'avait pas été reconduite, a décidé de claquer la porte de la chaîne cryptée pour rejoindre la première chaîne Info de France. Il animera une émission entre 19h et 20h, avec pour l'objectif de concurrencer Face à l'info, l'émission présentée par Christine Kelly, avec Éric Zemmour qui bat des records d'audience sur CNews. Il passera ensuite le relais à Natacha Polony, la deuxième nouvelle recrue de la chaîne, qui se retrouve, elle, en frontale avec l'heure des pros, l'émission de Pascal Praud. En cette année présidentielle, BFM TV ne compte pas laisser sa place de leadership à CNews. La sonnette d'alarme a été tirée en mai dernier, lorsque CNews est passé pour la première fois devant la chaîne Info. info. C'était début mai et ça s'est reproduit à plusieurs reprises.
Alors Laurent, je ne vais pas vous demander si vous allez rejoindre BFM TV la saison prochaine.
Ah, je serais bien embêté de m'avoir. Hein.
Ah, écoutez, en tout cas, si c'est le cas, dites-le nous. Hein, ouais. Ce serait un énorme scoop. Mais néanmoins, on vous a aperçu ces dernières années dans d'autres fonctions que celles d'acteur. Vous avez animé notamment Danse avec les Stars 2015 et 2016. Ouais. Est-ce que vous aimeriez justement poursuivre cette activité d'animateur ou bien vraiment aujourd'hui le focus c'est être acteur?
Non, aujourd'hui le focus c'est plutôt d'être acteur. Très honnêtement, l'expérience Danse avec les Stars s'est présentée à moi, ça a été une super expérience. Puis c'est vrai que j'avais jamais sollicité qui que ce soit pour être animateur. Donc c'est vrai que quand la prod de Danse avec les Stars et TF1 m'ont dit « Est-ce que tu veux co-animer avec Sandrine Quétier le programme en étant un peu son numéro 2 et être avec les candidats, etc. » L'ayant vécu en tant que candidat, et c'est aussi, je pense, un peu pour ça aussi qu'on est venu vers moi.
En quatrième saison de Danse avec les Stars.
Moi, j'ai été en quatrième saison en tant que candidat et on avait gardé un lien un peu tous ensemble. Et voilà, donc évidemment, ça ne se refuse pas. Après, effectivement, c'est un métier à part entière. Ouais. Voilà ce que je dis, hein, se retrouver... en plus, on m'a un peu jeté comme ça dans la fosse au lion avec un micro, une oreillette et un prompteur. Quand on ne l'a jamais fait, c'est un vrai métier.
C'est sûr.
Et quand on voit justement les animateurs pros... comme Nikos sur TF1, qui ont des heures et des heures de direct derrière eux. Effectivement, ça a beau hurler dans l'oreillette, il y a beau avoir un prompteur. Ouais. Quoi qu'il arrive, il fait l'émission qu'il a envie de faire aussi avec son style. C'est ce que je n'ai pas réussi à faire moi à l'époque dans Danse avec les Stars, où je n'ai pas réussi à m'affirmer. Et le programme avait besoin d'un animateur, je pense, qui affirme plus une nouveauté, quelque chose de nouveau dans l'édition et dans le côté éditorial. C'est ce que fait très bien Camille Combal. Donc,
mais vous avez raison, Laurent, c'est vrai que lire un prompteur, c'est un vrai métier. Hein. Les gens en sont
on se dit, c'est pas... facile, il n'y a qu'à lire.
Effectivement, c'est vrai, mais il faut mettre de la vie, il faut l'incarner, etc.
Exactement.
Mais si demain, il y a une chaîne qui vient vous voir et qui vous propose vraiment une émission sur mesure pour vous, sans prompteur, vraiment, où vous improvisez, où vous montrez tout votre talent, parce qu'il y a des ponts, hein, on le sait, on en parlait bien tout sûr à l'heure en antenne, entre le métier d'acteur et le métier d'animateur. Est-ce que vous pourriez justement faire un petit écart quand même?
Très honnêtement, je pourrais faire un écart. Après, aujourd'hui, je ne vois pas qui me proposerait ça parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout la démarche dans laquelle je suis. Donc, un talk show, ce genre de choses, pas du tout. C'est-à-dire, je ne me sens pas du tout à ma place à faire ça. Et pourtant, je suis curieux et je suis touche à tout. Mais ça, c'est vraiment des choses où je me sentirais aucune légitimité à y aller. Moi, mon métier, c'est de divertir. Pourquoi pas un jeu, plutôt un jeu avec des anonymes, de la réaction, de la sympathie, être en réaction avec eux, etc. Pourquoi pas un jeu, mais sinon après, il y a des animateurs aussi qui sont très pertinents par leur culture, sur l'info, sur la politique, sur l'économie. Ben, moi je ne suis pas du tout spécialisé dans des domaines qui me permettraient d'avoir une émission où ça serait légitime de venir me chercher moi.
Bon, là où vous êtes pertinent en tout cas, et nous on peut vous l'assurer puisqu'on est allé vous voir au théâtre, c'est au Théâtre de la Renaissance, dans la pièce Espèce menacée, on en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Vous montez donc actuellement sur les planches du Théâtre de la Renaissance dans une pièce hilarante intitulée « Espèce menacée ». Vous y interprétez le personnage principal, un comptable, qui rentre chez lui, vanné de sa journée, et qui a découvert juste avant qu'il a échangé par inadvertance sa serviette avec celle d'un autre passager dans le RER. Sauf que celle-ci, elle renferme une somme colossale, 7 millions d'euros. Comment votre personnage va-t-il réagir lorsqu'il va justement découvrir que sa manette renferme une telle somme d'argent ?
Pour lui, qui est comptable, il a compté l'argent des autres pendant des années. Là, d'un coup, il se dit, je vais pouvoir compter le mien. Donc forcément, il y a l'envie de le garder, il y a l'envie de changer de vie. C'est un peu la question que tous les quadras peuvent se poser, la crise de la quarantaine. Moi, je suis en plein dedans aussi, de dire, est-ce que d'un coup, ma vie pourrait être autre chose. Et du coup, ce déclic et ce tremplin que pourrait être 7 millions d'euros, forcément, dans la vie d'Yvon, effectivement, il se voit sur une plage de Buenos Aires ouvrir une crêperie avec sa femme. Bon, elle n'est pas prête à tout ça, mais en tout cas, ça change une vie, oui.
Mais elle se matérialise comment, vous, votre crise de la quarantaine, si ce n'est pas justement tout plaqué?
Elle se manifeste un peu comme ça. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir ce que j'ai envie de faire d'autre. C'est vrai que je fais Camping Paradis depuis 15 ans.
Oui.
C'est super, c'est une super expérience, c'est une vie folle, etc. Mais forcément... et puis les acteurs, je crois, on a un truc où on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on veut toujours plus que la chance qu'on a déjà d'avoir. Moi, j'ai une chance incroyable de porter une série depuis 15 ans sur TF1.
Qui est récurrente et qui vous assure un salaire à la fin du mois.
Bien sûr, qui assure un confort de vie et qui en même temps est une expérience artistique assez unique parce que finalement, quand on joue un personnage, la vie d'Yvon reste figée et la même tous les soirs. Et je jouerai Yvon Le Moëlle, ce personnage, de la même façon pendant toute la durée d'exploitation de la pièce. Le personnage de Tom Delorme que joue dans Camping Paradis, il vieillit avec moi, il grandit avec moi, il mûrit avec moi. Et c'est une expérience assez intéressante dans la vie d'un comédien, de prendre un personnage à un moment de sa vie et de le voir avancer pendant 15 ans. C'est quand même quelque chose qui est pas banal. Et du coup, c'est aussi quelque chose que j'aime dans Camping Paradis, c'est de voir finalement aussi ce que devient Tom, parce que c'est un personnage que j'aime et auquel je me suis attaché.
Alors, la pièce Espèce menacée, elle a été créée en 1994 par un monsieur qui s'appelle Ray Cooney. Elle a ensuite été adaptée en France par Gérard Jugnot et Michel Blanc. Pour quelles raisons vous avez décidé justement de vous réapproprier cette intrigue, en fait? Quelle a été l'idée de départ?
C'est vraiment pas de ma faute.
Vous n'êtes pas coupable.
C'est la faute d'Arthur Jugnot.
Ah oui, d'accord.
Le fils de Gérard Jugnot.
D'ailleurs, il y a une filiation quand même entre
Non, non, en fait, Arthur est venu tourner un épisode de Camping Paradis avec moi il y a quelques années, je crois en 2018 ou 2017. Et en discutant autour d'un petit plateau de fruits de mer un soir à Carry-le-Rouet, on parlait théâtre, lui qui est un homme de théâtre. Et je lui disais, mais moi j'ai une problématique, c'est qu'avec les dates de tournage Camping, c'est difficile de faire la rentrée de septembre, c'est difficile de faire la rentrée de janvier au théâtre à Paris. Et il me dit, fais une tournée, comme ça, en fonction de ton planning, tu cales des dates comme tu as besoin. Et je dis, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Et il y avait Patrick Guérino qui joue Xavier dans Camping et Thierry Kendorn qui joue André aussi dans Camping à ce dîner. Et Arthur dit, non, mais je vais réfléchir un truc à vous trois, parce que ça serait bien, vous trois, comme ça, vous faites quelque chose, et même le même planning, comme ça, en tant que production, c'est facile à gérer. Bon, on reste là-dessus, on finit nos oursins. Et le lendemain matin, Arthur arrive en disant, bon, j'ai une pièce, j'ai ce qu'il faut, j'ai la prod. Il y avait cette pièce que mon père avait jouée il y a quelques années, qui s'appelait Espèce menacée. Thierry Kendorn dit, je l'ai joué avec ton père à l'époque, à la fin des années 90. On l'a joué 600 ou 700 fois à la Michaudière. Ça a été un énorme succès à l'époque. Donc il dit, c'est une excellente pièce, il faut la refaire. Puis voilà, c'est parti comme ça. En 15 jours, Arthur avait tout géré les droits, lancé les premières ventes, lancé l'affiche, etc. Puis voilà, on s'est retrouvé à Paris quelques semaines après pour commencer les répètes, compléter l'équipe. Et voilà, on avait lancé la pré-tournée comme ça. Mais c'est un challenge de passer quand même sur une pièce qui a été jouée 700 fois.
C'est une grosse pression justement de passer juste derrière ces comédiens que sont Michel Blanc et Gérard Jugnot.
Alors ça a été Michel Blanc a fait l'adaptation avec Gérard Jugnot, et c'est Martin Lamotte qui jouait avec Gérard Jugnot à l'époque. Il y a forcément une pression. Après, il y a prescription entre guillemets, c'était il y a plus de 20 ans. Oui. On touche un public aujourd'hui forcément un peu différent aussi. Les codes entre guillemets de vie, certains codes de vie et de jeu ont changé aussi. Donc, du coup, on ne cherche pas à reproduire la même pièce qu'à l'époque. Je ne cherche pas à faire du Gérard Jugnot. Ouais. Voilà, c'est vraiment deux mises en scène différentes. À l'époque, Arthur devait avoir une petite vingtaine d'années quand la pièce s'est montée et jouée. Donc, c'est pareil, il n'était pas dans ce projet-là à l'époque. Il n'y a que Thierry Kendorn, finalement, qui est un petit peu notre maître Yoda à nous, qui finalement vit toutes les générations. Et donc, lui a déjà joué. Nous, on a joué maintenant 30 ou 35 fois la pièce.
Qui est excellent d'ailleurs dans son rôle de policier.
Ce qui est dingue, c'est qu'il a pris 20 ans, mais il est toujours très bien dans ce rôle. Il joue le même rôle qu'à l'époque et il est toujours aussi efficace dans le rôle, même avec 20 ans de plus.
Ouais. C'est très calme au début, soupolé, et après il explose.
C'est un personnage qui amène du calme dans la pièce, parce que tous les autres personnages ont une tendance à être assez dynamique, voire par moments Yvon est un peu hystérique parce qu'il faut partir et il sent les embrouilles arriver. Et justement, Thierry amène quelque chose de certaine rondeur, et puis l'évolution de son personnage est assez intéressante tout au long de la pièce.
Ouais. Allez, on est en direct sur la page YouTube de TV Magazine. Il y a des questions, Sarah.
Oui, j'ai pas mal de questions. Je vais prendre d'abord celle d'Alexandre. Avez-vous des nouvelles d'Adeline, la mariée, dans Mon incroyable fiancé? L'émission qui vous
on
a révélé.
On en parlait tout à l'heure,
mais oui.
Si c'est pour avoir un 06, je
ne sais pas. Peut-être qu'Alexandre est intéressé.
on s'est perdu de vue, très honnêtement.
D'accord.
Je crois qu'elle avait envie de retourner à quelque chose de plus serein, de plus paisible. Je crois avoir vu il y a quelques années une émission où effectivement elle avait vraiment été retournée dans sa région natale, et elle avait je crois ouvert une entreprise de massage dans l'esthétique, etc. Donc elle était vraiment repartie dans quelque chose de différent. Mais du coup voilà, on s'est perdu du il y a maintenant quelques années.
On vous en parle souvent, ça, de Mon incroyable fiancé, à chaque fois dans la rue, dans les interviews.
C'est un peu mon tube à moi, c'est-à-dire que non, mais c'est vrai, ça a été un événement dans la télévision qui est devenue une émission culte, une émission qui a battu des records d'audience. Ça a été aussi un genre nouveau dans une époque où la télé-réalité était dans un stade où il y avait la Star Academy, il y avait Koh-Lanta qui commençait, mais on était un peu au tout début de ces émissions-là encore. Ouais. Il y avait eu le Loft quelques années avant, 3-4 ans avant, mais on était encore on recherchait encore des concepts de télévision nouveaux dans la télé-réalité. Et du coup, de fausser une télé-réalité et de scénariser une télé-réalité avec des comédiens et des candidats, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc ça a marqué la, la télé, et ça reste un souvenir dingue. Ouais.
Alors, espèce menacée, hein, cette pièce, elle nous met un petit peu, on doit le reconnaître, un peu mal à l'aise aussi quand on est dans le public, parce que on se pose la question, on se dit, si nous, on récupérait autant d'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Alors vous nous disiez que clairement, vous vous barriez avec l'argent, hein, sans problème, mais si vous aviez demain, admettons, vous gagnez 7 millions d'euros, comme ça, admettons légalement, qu'est-ce que vous en faites des 7 millions d'euros? Est-ce que vous avez déjà posé la question?
Je ferai quelque chose pour sauver les dauphins.
Oh, c'est beau, c'est vrai. Oh, bah, écoutez, vous avez le droit d'être engagé.
Un côté Miss France.
Vous avez le droit.
Non, très honnêtement, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Non, je crois que un de mes rêves, c'est d'ouvrir… J'ai deux rêves, j'ai plein de rêves dans la vie, mais dans ma fameuse crise de la quarantaine, j'aurais envie d'ouvrir un restaurant.
Ouais.
Donc, c'est quelque chose que je mettrai en œuvre. J'aurais envie d'ouvrir une école de formation pour des jeunes acteurs. Je reçois beaucoup de jeunes acteurs sur Camping Paradis et il y a d'excellents comédiens que je rencontre, que je vois, ou comédiennes, et qui ont des fois des formations théâtrales très solides, mais finalement, dans leur formation théâtrale, il manque le pendant version tournage,
ouais.
Toute la technique, toute la partie logistique d'un tournage, toutes les contraintes qu'il y a sur un tournage quand on joue. Il faut être précis, il faut jouer une certaine marque en fonction de la lumière, ouais. Pour être justement toujours… Et du coup, c'est des choses qu'ils n'ont pas, et du coup, ça les bloque un peu et ça les empêche un peu dans leur jeu. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, si je gagnais 7 millions d'euros, voilà, je mettrais déjà en place ça, puis après, j'essaierai d'en placer et puis de faire en sorte que mes enfants ne manquent de rien à l'avenir.
J'allais dire, peut-être un petit peu quand même. Alors, c'est vrai qu'on a tous vécu ça, en tout cas vous les acteurs, c'est que les salles de spectacle étaient fermées pendant des mois et des mois à cause de la crise sanitaire. Le gouvernement a préféré les fermer pour éviter que le virus ne se propage. Vous avez regagné cette salle de spectacle, le théâtre en tout cas récemment. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez remarché sur les planches?
On a ouvert le 25 juin, le soir de la première, il y avait une vraie émotion dans l'équipe, il y avait une vraie émotion à la fin avec le public. Ça ressemblait un peu à un spectacle de fin d'année, je disais, parce que c'est vrai qu'on prend rarement la parole en tant qu'acteur à la fin d'un spectacle, il y a les applaudissements et puis le rideau. Et là, c'est vrai que pour une réouverture, Arthur Jugnot a dit un petit mot au début pour la première. Et puis, c'est vrai que j'ai repris la main à la fin. Mais effectivement, parce qu'il y avait un vrai plaisir d'être là. Et puis surtout, il y avait énormément de monde. Encore les restrictions et la jauge était limitée à 60%, je crois. Mais on était au taquet de la jauge auquel on avait droit. Et du coup, c'était une vraie belle surprise parce qu'on n'imaginait pas qu'il y ait autant de monde dès le début. Donc du coup, il y avait une vraie émotion. Et je crois que l'échange avec le public est passé aussi par cette émotion-là à la fin. Et voilà, et forcément, nous, notre métier, c'est à la fois de tourner, c'est à la fois d'être sur scène. C'est vrai qu'en même temps, être sur scène, c'est une émotion qu'on n'a pas en tournage parce que c'est long, ça dure une journée de travail de 8, 9, 10 heures. C'est des caméras, c'est des équipes techniques. Là, du coup, quand on partage deux heures la scène avec une interaction avec le public, forcément, le plaisir est décuplé. Donc là, il y avait vraiment… on est tous ressortis… heureux et soulagé. Et puis, c'est une des premières grosses salles qui rouvre. La Renaissance, ça fait quand même partie des gros théâtres parisiens. C'est une vraie réouverture. C'est une pièce à 8 personnages. Mmh. On est très nombreux. Donc, c'est entre guillemets une grosse production théâtrale. Pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de grosses pièces qui ont repris. Plutôt des duos, des choses à 2-3, un peu plus des fois café-théâtre. Mais c'est vrai qu'une une grosse pièce de comédie comme ça, on fait partie des premiers à y aller. Donc, du coup, il y a aussi un challenge à tenir l'été. On joue jusqu'en septembre, du mercredi au samedi. Donc, il y a un vrai challenge aussi de tenir et de donner aux gens de venir tout l'été. Ouais.
Allez, Sarah, des questions?
Oui, celle de Marie. Avez-vous encore des conséquences liées à votre opération de l'ablation d'une partie de l'estomac? C'est vrai que vous en aviez parlé il y a quelques années déjà maintenant.
Oui, c'est une opération que j'ai faite fin 2014 qui m'a fait perdre à l'époque près de 60 kilos, un peu plus de 60 kilos même. Là, je suis dans la phase 2 ou 3, je ne sais pas, mais en tout cas dans la phase où on reprend du poids parce que cette opération ne soigne pas l'obésité. La maladie obésité à proprement parler ne se soigne pas aujourd'hui. Il n'y a pas de traitement qui permet de lutter contre l'obésité ou de soigner de l'obésité. Les opérations bariatriques, donc qui sont la sleeve gastrectomie et le bypass, sont des opérations qui sont des aides mécaniques. C'est-à-dire que comme on réduit la taille de l'estomac, on mange beaucoup moins. Comme on bouge beaucoup moins, moins on a d'apport, plus on en dépense. Et du coup, ça permet de perdre beaucoup de poids. Mais malgré tout, la maladie obésité est là. Au bout de quelques années post-opératoires, forcément, On a rechangé nos habitudes, on a repris parfois de mauvaises habitudes. Et comme la maladie est toujours là, effectivement, on n'est pas égaux devant l'assiette. Donc un obèse qui mange est une personne qui grossit. Donc effectivement, en ce moment, je suis dans une phase où je reprends du poids. C'est très difficile à encaisser quand on revoit des images justement de la période Danse avec les stars et de voir, voilà, et de se revoir aujourd'hui et de voir que la balance continue de monter. Il y a une sensation d'échec, il y a une sensation de culpabilité qui est très dure. Je sais qu'elle est partagée par beaucoup de gens qui ont suivi ces opérations-là aussi. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises opérations. Ça veut juste dire qu'effectivement, derrière, au-delà de l'aide mécanique, il y a un suivi et une rigueur et une organisation de vie qui est vraiment militaire à avoir. Et c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre d'écart parce que sinon, on est tout de suite sanctionné. Le poids repart. Donc, c'est vraiment très dur. Les gens, à l'époque, certains avaient dit « Oh, bah, c'est facile, il a maigri, il s'est fait couper l'estomac. Ouais. » Oui, c'est facile sur le coup parce que c'est très agréable et très plaisant de se voir perdre le poids qu'on ne supportait pas porter pendant des années. Mais là, la phase de le voir revenir, c'est compliqué aussi.
Alors, je profite de cette question pour faire réagir là-dessus, parce que la télévision s'empare un peu plus maintenant, aujourd'hui, des sujets liés à l'obésité. Karine Le Marchand, récemment, a produit et présenté une émission qui s'appelle Opération Renaissance. Vous l'avez regardée? Vous en avez pensé?
Je l'ai regardée rapidement, mais j'ai trouvé ça très bien parce qu'elle suivait justement des personnes qui ont eu le même parcours que le mien. Donc, et c'est dommage qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger. J'aurais adoré échanger avec elle sur le sujet et ses équipes et les différentes personnes qu'elle a pu suivre. Parce que justement, c'est. À l'époque, je crois que tout n'a pas été tendre non plus avec elle sur le traitement. Mais dans tous les cas, c'est formidable de parler de l'obésité, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est un adulte sur six aujourd'hui est en condition d'obésité en France. Ouais. Je veux dire, c'est une maladie qui fait des ravages, mais c'est une maladie de l'ombre. C'est-à-dire, c'est une maladie où on vit avec au quotidien. Il n'y a pas de souci, on peut travailler, on peut courir, on peut faire du sport, on peut voir des amis, on peut aller au théâtre. Il n'y a pas de souci, on vit avec. Mais le problème, c'est que on en est à un adulte sur six, ça fait des ravages sur les enfants, ça fait des ravages sur les adolescents. On a un vrai problème de malbouffe, on a un vrai problème de ce qu'il y a dans la nourriture aujourd'hui, de ce qu'on nous fait manger. C'est facile de manger bio, c'est facile de manger ceci, c'est facile de manger cela. Mais en même temps, ça peut avoir un coût. Forcément accessible selon les endroits où on habite. C'est pas forcément faisable selon les métiers et les vies qu'on peut avoir. Sauf que ça éclabousse aussi nos enfants et que nos enfants prennent du poids très vite. Et que plus le poids est marqué très vite dans les gènes, plus c'est compliqué après de partir à la baisse. Donc, et mettre des enfants au régime très jeune, c'est quand même de la torture. Donc c'est un vrai sujet qui est complexe, mais on sent que c'est un vrai sujet. Il y a des prises de conscience. Il y a Marie Debrouwer qui a fait un très beau reportage sur la grossophobie. Derrière tout ça, ça reste encore bon. Voilà, c'est pas très beau des gros à la télévision. Donc finalement, on en met peu, on en met de temps en temps pour se donner bonne conscience, mais c'est pas une maladie qui est spectaculaire et dont on a envie de parler. Voilà,
vous avez été victime, Laurent Ornac, de cette grossophobie justement. Bon, c'est vrai que vous êtes installé dans une série qui fonctionne bien sur TF1, mais est-ce que vous avez été justement victime de grossophobie?
Bien sûr, mais en fait, c'est terrible parce que y a un racisme du gros comme il y a un racisme du noir, il y a un racisme du juif. Voilà, il y a des sujets qui fâchent. Il y a d'autres, on peut en parler où c'est un peu plus léger, mais il y a un racisme. Je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait Magali Vahey qui avait gagné la Star Academy, exactement. Qui était une jeune candidate qui était aussi en surpoids. Il y avait Laurence Boccolini qui présentait le maillon faible. Et j'arrivais sur Camping Paradis et la presse titrait TF1 mise sur les nouveaux poids lourds. Voilà. C'est comme si on disait aujourd'hui, on met Issa Doumbia et on disait, tiens, M6 mise sur les Noirs.
Oui, bien sûr.
On mise sur quelqu'un qui a du talent et qu'on a envie de voir parce qu'il a du talent. Pas parce qu'il est noir, pas parce qu'il est gros, pas parce qu'il est comme ça. Parce que c'est quelqu'un qu'on a choisi parce qu'il correspond à ce qu'on a envie de mettre à l'antenne pour incarner un rôle ou un profil précis. Mais c'est très dur. Donc évidemment, c'est des choses qui existent. Qui existait, qui existe encore. Les choses ont tendance à évoluer. Je vais essayer d'être optimiste aussi, mais les choses ont tendance à évoluer. Il y a justement la démarche de Karine Le Marchand avec cette émission-là. Il y a régulièrement des reportages. Il y a ce documentaire, comme je disais, de Marie Debrouwer qui a été diffusé sur France Télévisions. Mais voilà, ça reste quand même un sujet où on peut encore. Il y a encore du boulot, en tout cas, pour réellement changer les mentalités. Et il y a un vrai travail sur les mentalités des Français, parce qu'effectivement, il y a des choses, moi je le sais, le bon sens, on l'a tous, voilà. Mais ça ne se résume pas à juste mange moins et fais du sport. Effectivement, c'est la règle, c'est ça la règle. C'est manger équilibré et avoir une activité physique. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. c'est derrière ça, ouais. Il y a des vraies choses psychologiques, bien des sûr. Failles, c'est des choses peut-être des traumatismes de l'enfance, des souffrances. Il y a des choses qu'on voilà. Dans mon cas, j'arrive même pas forcément à les expliquer encore, ouais. Mais il y a un vrai travail à faire derrière parce que justement la volonté, je l'ai. Le nombre de, il y a des gens très gros qui sont dans la phase. Mais moi, je suis très bien comme ça. J'ai pas du tout envie de maigrir. Il y a d'autres obèses qui rêvent de maigrir, qui tous les jours se disent allez, là, je fais gaffe aujourd'hui. Voilà. Mais la volonté suffit pas.
Et justement, peut-être que des internautes se posent cette question-là. Quel conseil donneriez-vous justement à une personne en surpoids aujourd'hui qui effectivement essaye de moins manger, de faire du sport, c'est la règle comme vous le disiez, mais qui ne trouve pas ses failles. Est-ce qu'il faut aller voir un psy par exemple? Est-ce que ça peut aider?
Faut aller voir quelqu'un. Je ne sais pas s'il faut commencer par un psy, ouais. Mais il ne faut pas rester seul. En fait, je pense que le déclic, il faut aller chercher de l'aide. Que ça soit déjà peut-être déjà au départ par son médecin généraliste. Alors des fois, il y a des généralistes un peu vieille génération qui sont juste dans le manger moins et manger des carottes râpées à tous les repas et une tranche de jambon et puis aller faire du sport puis vous maigrirez. Oui, mais ça marche sur un temps. C'est-à-dire ça, on l'a tous fait, ce régime-là. On perd 5, 10, 15 kilos avant l'été. Et puis l'été passe, et puis derrière, c'est fini. Ouais. Puis le mois de mai de l'année suivante, vous avez les 15 kilos à perdre, voire 20, parce que vous avez fait un petit effet yo-yo où c'est encore un peu plus. Donc ça marche. Mais en tout cas, il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas rester seul, parce que seul, c'est vraiment très, très dur. Si en plus, on vit, qu'on a une famille, des enfants, on est marié. Il y a évidemment des tentations à la maison, il y a évidemment, ça a part à éclabousser la famille et à éclabousser les enfants. Donc, dans tous les cas, il faut continuer à les nourrir, à les alimenter. Donc dans tous les cas, il y a besoin de structurer quelque chose où on a besoin d'être, que ce soit des nutritionnistes, des diététiciens, un psy, un médecin, mais en tout cas, ne pas rester seul dans ce truc-là parce que ça contribue à fermer la carapace et c'est d'autant plus dur après de l'ouvrir. Quand l'urgence arrive.
Alors, Laurent Rodac, on en parlait, Camping Paradis, le grand public vous connaît dans la peau de ce Tom Delorme, hein, le propriétaire du terrain de vacances dans la célèbre série de TF1. Alors, la chaîne diffuse un nouvel épisode ce lundi 5 juillet avec un guest de marque, Patrick Sébastien. Oui. Voilà. Est-ce que c'est pour faire chanter les sardines qui maintiennent l'étoile de tente que vous avez fait venir cet animateur?
Non, mais en même temps, c'est complètement cohérent d'avoir Patrick Sébastien, je trouve, dans Camping Paradis parce que justement, il est quand même. S'il y a bien un mec qui passe en camping toutes les musiques, c'est Patrick Sébastien. Et on ne l'avait jamais reçu. Et du coup, on le reçoit et c'est une vraie belle rencontre parce que c'est quelqu'un que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Ouais. J'ai grandi en regardant les émissions de Patrick Sébastien.
Le plus grand cabaret du monde, les années bonheur.
Le plus grand cabaret du monde. Et, puis, et même avant, voilà, le grand bluff, Carnaval, Sébastien, c'est fou.
The Fiesta.
Voilà. Et donc, du coup, il incarne quand même la culture télé populaire de ces 30 dernières années. Camping Paradis est un programme populaire, donc il y a une évidence à ce qu'il fasse partie du truc à un moment ou à un autre. Après, on n'avait pas envie de le faire venir en tant que monsieur loyal, comme on peut le connaître. Du coup, il arrive avec un personnage et un rôle qui s'appelle Patrick. Il arrive avec un personnage et un rôle tout en douceur. Il est un papa de deux garçons très différents l'un de l'autre. Un travaille avec lui, ils sont tous les deux maraîchers et ils viennent animer un petit stand de vente de produits régionaux au camping. Et son deuxième fils faisait des études à Paris et du coup vient passer les vacances avec son père et son frère. Et voilà, et ça va être cette histoire d'un père et de ses deux fils. Il y a de la jalousie, il y a des non-dits. Et voilà, et c'est un rôle du coup... avec du caractère, avec une certaine douceur, avec des failles. Et du coup, on découvre un Patrick Sébastien qui est touchant, qui est différent de ce qu'on peut le connaître. Et il fait une belle performance d'acteur. Et c'est ça qui est chouette dans Camping, c'est d'accueillir des talents. Et quand on accueille quelqu'un comme Patrick Sébastien, on se dit « qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ?» Alors, on pourrait lui donner un micro et lui dire « vas-y, anime la soirée du camping » et il nous ferait ça très bien, mais ça ne surprendrait pas. Et là, du coup, je suis content parce qu'effectivement, on arrive avec quelque chose de différent et quelque chose qu'on n'attend pas de lui. Et je crois qu'en plus, c'est une histoire qui résonnait en lui et c'est aussi pour ça qu'il a accepté le scénario et le rôle. C'est qu'effectivement, je pense qu'il avait envie de défendre quelque chose sur la paternité, etc., par rapport à ses histoires et son histoire personnelle. Et du coup, il avait envie de défendre ça et il le fait avec beaucoup de justesse et de pudeur. Et c'est très, très réussi.
Ça fait 15
ans
hein, que vous portez cette série sur vos épaules. Je crois que vous avez passé même le cap du centième épisode.
Oui, cette année.
Cette année. Est-ce que vous pourriez faire 100 épisodes de plus?
Oui, pourquoi pas, parce que je compte plus. Je comptais au début. Au début, on dit je fais camping 1, 2, 3, 4, 5. Et puis au bout d'un moment, on ne sait plus le chiffre écrit sur le scénario, mais on n'y fait même plus attention parce que ça s'enchaîne et ça s'enchaîne. Et c'est vrai qu'on y prend encore du plaisir. On y prend du plaisir parce qu'on est une famille, on est une équipe depuis 15 ans. Il y a eu des départs et des arrivées dans l'équipe des comédiens, mais globalement, il y a une base qui est là depuis le début. Les réalisateurs, pareil, les techniciens, pareil, la production, pareil. Donc, du coup, c'est vrai que Camping Paradis, c'est vraiment une famille. Je crois que c'est ce qui ressort d'ailleurs de tous les guests qu'on peut accueillir, puisqu'on est une série d'accueil. On est un peu la croisière s'amuse de l'époque. C'est-à-dire, nous, on est là, et puis c'est à chaque fois les guests qui viennent raconter l'épisode.
Un peu comme dans Joséphine Ange Gardien, d'ailleurs.
Un peu comme dans Joséphine Ange Gardien. Et c'est vrai que les guests nous amènent de la fraîcheur, donc nous amènent aussi envie de continuer. Ouais. Nous, on est une famille, donc c'est sûr qu'on a envie de se retrouver chaque année pour ouais. continuer à bosser ensemble. Donc, pour le moment, tant que le public a envie, nous, on a envie. Après, on sait qu'il y aura forcément un moment où il y aura une fin. Le public passera à autre chose et c'est bien normal. Déjà, au bout de 15 ans, c'est dingue de voir à quel point la série a aussi marqué, justement, une génération. Je vois des jeunes de 20 ans qui me disent « Ah, bah,
j'ai grandi avec Camping.
» Je croisais un célèbre rappeur l'autre jour, on ne s'était jamais croisé, qui me regarde et du coup, on s'approche,
célèbre
on se dit
rappeur,
bonjour.
Attendez, il n'y en a pas beaucoup. Booba,
mais bon, bref, je, par respect pour sa culture hip-hop, je ne pourrais pas le dire. Mais du coup, on se dit bonjour et il me dit j'ai grandi en te regardant. Quoi. Et du coup, et de se dire, c'est marrant d'imaginer que des jeunes gens comme ça qui ont aussi grandi en regardant Camping Paradis. Et ça me touche, en même temps, ça me met un petit coup d'œil, mais ça me touche. Et voilà, donc c'est vrai que c'est ce genre aussi d'anecdotes qui se font dire, mais bien sûr, c'est une chance inouïe de pouvoir faire ça.
Avant de prendre une dernière question internaute, Sarah, une question par rapport justement à Camping Paradis. Si demain vous décidez de partir de cette série, est-ce que vous pensez que cette fiction pourra se poursuivre avec un autre acteur peut-être, ou bien selon vous, elle ne vous survivra pas?
Personne n'est irremplaçable, donc pourquoi pas essayer. Après, c'est sûr que quand un personnage a marqué une série, c'est
ça
difficile, mais en même temps, ça sera peut-être l'occasion de changer aussi la narration ou changer quelque chose qui permettrait peut-être de dire c'est un nouveau camping avec un nouveau directeur. Pourquoi pas? Oui, en tout cas, ça pourrait.
Vous n'y êtes pas opposé, en tout cas.
Je n'ai pas à m'y opposer, c'est-à-dire le programme ne m'appartient pas. Donc moi, en tout cas, je me dis pourquoi pas. Après. J'ai pas prévu de partir. J'espère qu'on n'a pas prévu de m'évincer du programme.
J'ai pas d'informations à ce sujet, je vous rassure.
Me pousser du haut d'une falaise. Alors, Tom, la voiture tombe de la falaise.
Et malheureusement, il n'y a pas de corde pour vous accrocher.
Donc, pourquoi pas, oui. Enfin, ça sera plutôt une décision de TF1 que de moi de me remplacer, oui, c'est sûr.
Allez, Sarah, une question.
Une dernière question difficile. Hein. Quel est votre meilleur souvenir dans Camping Paradis?
Oula.
Oh, bonne question. 15 ans, c'est ça, difficile.
Le pire,
si c'est plus facile
le
pour
meilleur
vous.
Et le pire.
Le pire.
Le même.
Le meilleur, très honnêtement, ça a été la naissance de ma fille en 2012, où elle est née le 25 septembre. Je reprenais la série le 26 septembre. Et pour la première fois de ma vie, j'allais au travail avec un but. Ouais. Voilà, pas juste pour m'amuser, mais je me sentais rempli d'une responsabilité familiale et paternelle. Et c'est vraiment une fois où je suis arrivé sur le plateau en étant, entre guillemets, un autre homme. Et j'en garde je ne me rappelle pas de tous les jours de tournage de la série, mais en tout cas, celui-là m'avait marqué parce que je faisais du rodéo. C'était un épisode sur les cow-boys. On avait une espèce d'attraction avec un cheval gonflable sur lequel il faut monter. Ça tombe dans tous les sens et on tombe. Et donc, je me disais, je suis payé pour faire ça. Et c'est grâce à ça que je vais nourrir ma fille en m'amusant à faire du cheval sur la plage. Voilà, c'est une vraie responsabilité.
On va terminer sur cette belle note émouvante. Merci beaucoup, Laurent Ronac, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous jouez donc au Théâtre de la Renaissance, dans la pièce Espèce menacée qu'on allait voir. Donc, on peut vous le dire, elle est excellente. Il faut absolument s'y rendre. Et on vous retrouve également lundi dans un nouvel épisode de Camping Paradis. C'est à 21h05 sur TF1 que ça se passe. Merci à vous. Merci, Zara. Pour ces news médias de qualité, puis pour notre dernier Buzz TV, puisque demain, on sera avec Nicolas Voller, qui sera à ma place et qui recevra un animateur, un ancien animateur d'une émission que l'on a tous regardée, mais qu'on ne dira jamais. Il s'agit du Journal du Hard sur Canal+. Sébastien Thoen sera avec nous. Il parlera évidemment de son éviction de Canal+, et puis de tous ces projets qui arrivent à la rentrée, et Dieu sait qu'il y en a nombreux. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à demain pour un nouveau Buzz TV.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.